Le journal Loïc Barrière. Le prix Nobel de la paix récompense cette année deux ONG russes et ukrainiennes qui luttent pour les droits de l'homme ainsi que l'opposant biélorusse emprisonné Aless Bialatsky. Réaction de Patrick Le Yarrick, auteur du livre « Les raisons de la guerre en Ukraine ». En Iran, un rapport médico-légal affirme que le décès de Mahsa Amini serait lié à une maladie et non à des coups reçus lors de son arrestation. Le Maoulid, qui marque l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, célébré ce week-end, entretien avec Ghaleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France. Enfin, l'équipe de France féminine de rugby affronte l'Afrique du Sud pour l'ouverture de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Un symbole fort en pleine guerre en Ukraine, le prix Nobel de la paix a été attribué à trois lauréats qui critiquent la politique menée par Vladimir Poutine. L'ONG russe Mémorial, dissoute l'an dernier sur l'ordre du Kremlin. Le Centre ukrainien pour les libertés civiles, une ONG qui enquête sur les crimes de guerre commis par la Russie. Troisième lauréat, l'opposant biélorusse Aless Bialatsky, actuellement incarcéré. Emmanuel Macron a estimé que le Nobel de la paix rend hommage à des défenseurs indéfectibles des droits humains en Europe. Artisans de la paix, ils savent pouvoir compter sur le soutien de la France, affirme le président de la République. Je vous propose d'écouter Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. Il vient de publier « Les raisons de la guerre en Ukraine » aux éditions de l'Humanité.
Il a une orientation politique claire, le fait d'avoir récompensé Mémorial, dont il faut rappeler qu'il avait été initié par Mikhail Gorbatchev. Le fait de produire ce geste-là est clairement un geste contre le pouvoir russe. Y ajouter un militant de la Biélorussie, dont on sait que le gouvernement s'allie ou veut s'allier, en tout cas aide le gouvernement russe et Monsieur Poutine, on voit bien qu'il y a là une signification politique qui est donnée pour renforcer, je souhaite que ça renforce réellement le camp de la paix et non pas celui des va-t-en-guerre.
Là, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les militants de la démocratie face au pouvoir de Vladimir Poutine.
Oui, pour partie, c'est une bonne nouvelle, c'est un soutien. Mais moi, je crois que d'ailleurs, il faudrait créer les conditions, même chez nous à l'Ouest, en Europe, de faire des initiatives, des réunions avec des militants des droits de l'homme, des militants de la démocratie, des militants pacifistes russes et ukrainiens, de telle sorte que on puisse soulever un petit mouvement ici, visant non pas à continuer à faire ce qui se fait depuis ces semaines, c'est-à-dire attiser la guerre de part et d'autre, mais maintenant il faut trouver absolument un chemin de la paix, parce que là, on commence à rentrer dans une zone extrêmement inquiétante.
Patrick Le Yarrick, il vient de publier un livre intitulé « Les raisons de la guerre en Ukraine » aux éditions de l'Humanité. Et puis à propos de l'Ukraine, Joe Biden met en garde contre un risque d'apocalypse pour la première fois depuis la guerre froide. Le président américain prend très au sérieux les menaces de recours à l'arme nucléaire, menace proférée par la Russie en guerre contre l'Ukraine. En Iran, un rapport médical publié par le gouvernement assure que le décès de Mahsa Amini serait lié à une maladie et non à des coups reçus lors de son arrestation par la police des mœurs. Le rapport médical évoque une maladie du cerveau, mais son père affirme que l'étudiante de 22 ans était en parfaite santé. En Irak, un mort et quatre blessés dans l'explosion d'une bombe cachée dans une voiture. Cela s'est passé à Erbil. Le conducteur a été tué. Les quatre passagers blessés sont deux femmes et deux enfants. Les forces américaines ont tué cette semaine plusieurs responsables du groupe djihadiste État islamique en Syrie. L'attaque a eu lieu au cours d'une opération héliportée et d'une frappe aérienne. L'opération a visé un secteur proche de la ville de Qamishli, contrôlé par les forces kurdes alliées aux troupes américaines. La fête du Maoulid, célébrée par les musulmans à partir de ce soir et jusqu'à demain soir, elle commémore la naissance du prophète Mohammed. Gros plan sur cette fête avec le président de la Fondation de l'Islam de France, l'islamologue Ghaleb Bencher.
Le Maoulid, tel qu'on l'appelle, la naissance du prophète de l'islam, a une importance particulière dans la liturgie islamique, bien que ce ne soit pas le cas du temps du prophète lui-même, d'où le débat actuel entre les tenants d'une logique qui consiste à ne suivre au pied de la lettre que ce qui s'est passé du prophète, du temps du prophète lui-même, et qu'il faut se référer uniquement au Coran, référence première, bien entendu, qui ne dit rien à propos de cette célébration, et moins encore dans la sunna, la tradition prophétique. Les chroniqueurs et les historiens font remonter la toute première célébration de la naissance du prophète de l'islam, en gros aux Fatimides, à la dynastie Fatimide et au quatrième calife de cette dynastie qui se trouve être le calife Al-Mu'izz des Dinillah, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est venu du Maghreb, il faudrait le préciser pour nos amis auditeurs, et qui a fondé entre autres la ville du Caire. On est au dernier tiers du Xe siècle. La ville du Caire a été fondée entre 969, 970 et les années suivantes. Par la suite, cette célébration et cette fête va tomber en désuétude et elle revient. Elle revient sous Saladin et surtout sous l'impulsion de son gouverneur de la ville d'Erbil. On est globalement autour de 1207, au tournant du XIIIe siècle, et on la retrouvera en Afrique du Nord dès la fin du XIIIe siècle, en 1292, avec le roi Mérinite. Ça, c'est l'approche historique. L'idée générale, d'aucuns disent, du fait de la rencontre avec l'expansion de l'islam avec les communautés chrétiennes qui, elles, célébraient lors des fêtes de la nativité, notamment au moment de Noël, la naissance du Christ, les musulmans et surtout leurs dirigeants tenaient à avoir l'équivalent pour la célébration de la naissance du prophète. Maintenant, ce qui se passe de nos jours, même si tous les contextes islamiques et tous les pays dits musulmans ne célèbrent pas le Maoulid, mais la quasi-totalité le fait, et il y a des moments de réjouissance, de grande joie, notamment pour les enfants et surtout pour les familles. Certaines régions dépassent la journée, ça peut même s'étaler sur une semaine, d'autres se contentent uniquement de l'équivalent de la journée généralement admise, qui dans le calendrier lunaire, c'est la nuit du 12 du mois de premier.
Vous évoquiez la légitimité de cette célébration. Cela a-t-il évolué ces dernières années?
Je pense que le débat a dû s'apaiser. Il n'a surgi en réalité qu'avec la déferlante wahhabo-salafiste. Parce que, certes, ça n'a commencé à être en gros célébré, allez, si on veut être rigoureux, que trois siècles et demi ou quasiment après la mort du prophète. Donc l'argument notamment des salafistes est de dire, vous savez, les premiers compagnons, le prophète lui-même, n'avaient pas ordonné de telles célébrations. Pourquoi accepterions-nous une innovation et qui pour eux est une innovation blâmable? Mais les défenseurs, déjà à travers l'histoire et de nos jours, de cette fête et qui lui donne sa légitimité, et de dire, même si elle n'a pas la même importance que la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, ou encore moins comme celle de la fête du sacrifice, qui commémore la geste d'Abraham, qui a consenti à offrir son fils en holocauste à Dieu. Et il y a des raisons spirituelles et religieuses à célébrer la naissance du messager de Dieu, Mohammed. Et ça a été repris, parce que c'est tombé en désuétude, comme je l'ai dit, sous Saladin. On va retrouver ça en Afrique du Nord, on trouvera ça par la suite sous l'Empire ottoman et un peu partout, y compris en Afrique subsaharienne. Et là, quasiment la totalité, pas tous, c'est vrai. En Arabie Saoudite, elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas encouragée non plus. Mais on la trouve célébrée dans un peu partout, de par le monde dit islamique.
Le jour de cette fête est d'ailleurs férié dans de nombreux pays.
Entendu, et c'est aussi un moment de joie pour les enfants qui s'habillent, pour ceux qui le peuvent, je parle de leurs parents, d'habits neufs, et on leur distribue des cadeaux et des mets exquis et des bonbons.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, l'islamologue Ghaleb Bencher, il répondait à François-Xavier de Calonne. Ce vendredi, une centaine de personnes du collectif La Chapelle Debout est entrée à l'hôtel de ville de Paris. Des migrants qui ont demandé à être logés décemment dans la capitale. L'équipe de France féminine de rugby affronte l'Afrique du Sud ce samedi pour l'ouverture de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Première équipe à entrer dans la compétition. Le 15 de France figure parmi les favorite. Il faudra se lever tôt pour regarder les Bleus. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 3h15, heure française à Auckland. Enfin, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Stéphane Troussel, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, auteur du livre « Seine-Saint-Denis, la République au défi » aux éditions de l'Aube, extrait de cette émission.
Nous nous appelons la Seine-Saint-Denis, nous sommes fiers de cette identité. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Bon, parce que c'est pour moi un moment un peu particulier. Ça fait 10 ans que je suis président du département, fait plus longtemps encore que je suis engagé. Ça fait depuis ma naissance que je vis en Seine-Saint-Denis. J'y suis né. Et puis, on est un moment charnière pour le département, pour ma famille politique. Et puis, vous l'avez dit, l'élection présidentielle a été un moment où, une fois encore, notamment au début de cette campagne présidentielle et de la part de l'extrême droite en particulier, la Seine-Saint-Denis a été utilisée, instrumentalisée.
Avec une violence peut-être jamais égalée.
Exactement, avec une violence inégalée. Et c'était d'ailleurs souvent un des motifs dans l'apathie généralisée de cette campagne présidentielle, c'était souvent un des motifs de rage, de colère et de mobilisation des habitants de la Seine-Saint-Denis face à ce déferlement de haine, de préjugés, de stigmatisation qui était déversé par les candidats d'extrême droite en particulier contre la Seine-Saint-Denis qui instrumentalise au fond ce que nous sommes. Et c'est pour cela, oui. Je crois par ailleurs que ce combat-là sera inachevé et il faudra tout le temps y revenir et le poursuivre. Et donc c'est pour ça, mais c'est aussi finalement pour dire à l'ensemble du pays qui, tout le pays a souvent une idée, son idée de la Seine-Saint-Denis. Mais je veux aussi que la Seine-Saint-Denis, elle dise quelque chose au pays. Et je crois que ce qu'elle veut dire, ce que nous voulons dire, ce que je veux dire, c'est que finalement, ce que la Seine-Saint-Denis affronte, ses caractéristiques, sa jeunesse, sa diversité, son côté populaire, finalement, c'est à la fois une partie de l'identité que le pays ne veut pas voir toujours de lui-même, et puis les défis que doit affronter la Seine-Saint-Denis, c'est un peu un condensé de ce que doit affronter dans les années qui viennent la société française tout entière. Les inégalités qui explosent, la transition écologique, la transition démographique également. La Seine-Saint-Denis, c'est le territoire le plus jeune de France métropolitaine, mais plus que d'autres, nous allons devoir affronter l'augmentation très forte du nombre de personnes âgées dans notre département. Et puis les questions d'immigration, d'identité, de laïcité, qui taraudent la société française et qui sont un enjeu chez nous. Mais justement, je crois que on peut faire une démonstration de ce que si la République traduit concrètement tous les jours et pas seulement à travers son triptyque sur le fronton des écoles, eh bien, je crois qu'on peut réussir.
Stéphane Troussel, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission qui sera rediffusée dimanche à 17h. Cette édition est terminée. Retrouvez vos journaux et vos émissions sur radioorient.com ou sur Twitter, Facebook et Instagram. Excellent week-end à tous.